éduquer malgré nos craintes de l'avenir. Demain, 24 janvier, sera la journée mondiale de l'éducation. L'occasion pour Être et Savoir, où l'on parle d'éducation chaque semaine, de nous interroger sur le sens d'éduquer pour les enseignants, les parents, les adultes, alors que notre avenir commun semble si sombre. Peut-on, par exemple, conduire les enfants dans le monde, c'est la racine d'éduquer, conduire hors d'eux, sans fatalisme, alors que le péril écologique, les perspectives économiques, les guerres sont si anxiogènes, la liste n'est pas exhaustive. Comment nous positionner? Avons-nous, les grandes personnes, un devoir de lucidité auprès des plus jeunes? Peut-être doit-on changer le regard collectif sur les jeunes générations que l'on perçoit comme dépendantes aux réseaux sociaux, crédules, comme l'indique une récente étude de la Fondation Jean Jaurès sur le rapport des jeunes à la science, que l'on sait aussi fragiles psychologiquement et que l'on présente souvent comme moins bien instruites que les générations précédentes. Mais ça se discute. Enfin, voilà pour les mauvais côtés. Et pour le regard positif sur la jeunesse, il est peut-être pire lorsqu'on la présente comme responsable du fait de sauver le monde des erreurs de ses aînés. Nous soumettrons la question à nos invités. Aussi, j'y tiens, peut-on encore poser la question légitime du bonheur à être au monde, grandir et devenir adulte aujourd'hui? Et si oui, comment?
Est-ce que vous avez peur de l'avenir?
L'avenir? Ah si, j'ai beaucoup. Mes grands-parents disent, nous on s'en fiche, c'est vous qui allez avoir peur. Parce que là, on est en train de... ça va en décadence et c'est très mauvais. Par exemple, cette bombe atomique, ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible, des raz-de-marée, des choses comme ça. Et puis il y a la pollution aussi. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il faut s'en occuper immédiatement parce que si jamais on ne trouve pas une solution dans les... Je vais être optimiste, dans les 150 ans qui viennent, ça va être peut-être beaucoup plus grave que ça n'est maintenant parce que ça va être vraiment inquiétant.
J'ai un peu peur de l'avenir parce que tout le monde dit que c'est vrai que la pollution, après, ça va devenir épouvantable. Mmh. Et que Paris, tout le monde dit aussi que dans 10 ans, 15 ans, ça va devenir comme New York, comme les grandes villes d'Amérique. Il faudra s'enfermer chez soi, il faudra pas sortir le soir après 8 heures parce qu'il y aura des cambrioleurs. Mais...
J'ai peur que Paris devienne une ville très polluée, comme que vraiment, à la fin, on portera des masques à gaz. Ce serait horrible.
Horrible, je ne sais pas. En tout cas, se faire peur avec la vision des enfants du futur, c'est peut-être une vieille histoire, Cécile Van de Velde. Bonsoir.
L'avenir, bonsoir. La peur de l'avenir, c'est loin d'être nouveau. On le voit là avec ces témoignages donc d'enfants d'une autre époque, mais on voit qu'il y avait quand même des racines déjà dans la peur de la pollution, dans la peur environnementale. Il y a déjà des racines qui se sont poursuivies aujourd'hui, mais à chaque époque, c'est peur. À chaque époque, ça a peur de l'avenir. Et pour moi, qui ai un regard un petit peu situé d'une sociologue de la jeunesse qui a fait des enquêtes sur les jeunes adultes, j'ai pu remarquer à quel point, depuis les années 2000, notre peur de l'avenir, en tout cas celle portée par les jeunes, celle exprimée par les jeunes, elle a changé. Au début des années 2000, et puis depuis jusqu'aux années 2010, dans l'après-crise de 2008, les peurs exprimées par les jeunes étaient déjà très individuelles. La peur économique et sociale de pouvoir être déclassé, de ne pas réussir à construire sa vie dignement, etc. Et depuis quelques années, j'ai vu cette peur s'élargir. Une peur que j'appellerais peut-être plus existentielle. Avec cette question de plus en plus forte exprimée par des jeunes, à la fois en France, à la fois ici au Québec, au Canada, au Chili et ailleurs, est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie à moi? La peur de perdre le sens, et le sens dans sa double acception, de pas pouvoir trouver une direction à sa vie et de pas pouvoir donner une signification. Et on pourra parler pourquoi cette peur, cette tension existentielle est en train d'augmenter chez les adolescents, chez les jeunes adultes, avec une forme d'angoisse. On peut la dépasser, on peut la surmonter, mais effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un sentiment grandissant de déprise individuelle, c'est-à-dire de perte de prise sur sa propre existence et aussi sur les existences collectives, avec justement la peur environnementale qui a fait son chemin depuis les premiers témoignages que vous nous avez livrés.
Voilà qui situe parfaitement les enjeux de cette émission. Cécile Vandevelde, je dois préciser que vous êtes professeur agrégé à la Faculté des Arts et des Sciences au département de sociologie de l'Université de Montréal, d'où vous êtes en duplex, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie, et autrice d'un ouvrage qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai lu, en 2014, « Devenir adulte, sociologie comparée de la jeunesse en Europe », et c'était publié au PUF en 2014, et je suis sûre qu'on le trouve encore. Dans ce studio avec moi, Elena Pasquinelli, bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste des sciences de la cognition, responsable de la recherche et de l'évaluation à la Fondation La Main à la Pâte, membre associé à l'Institut Jean Nicot. Vous avez publié tout récemment un ouvrage « Comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes ». J'aime beaucoup la suite, la deuxième partie de ce titre, c'est chez Odile Jacob. Première question, et toujours par rapport à cette archive, la science était présentée donc en 77 par ces jeunes, hein, c'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais on voit bien comme il résonne dans notre esprit, comme un danger, un péril. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous aujourd'hui? On sait qu'il y a des enquêtes toutes récentes qui montrent que les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est un sondage de l'IFOP, un dossier de la Fondation Jean Jaurès de la semaine dernière, qui met en exergue les doutes de nombreux, très nombreux jeunes sur la science.
Il faut se demander. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de la bombe atomique. C'était l'époque, c'était les années 80. La science se cristallisait souvent aussi sur ces technologies qui faisaient très peur. Je suis pas sûre que la situation devienne de plus en plus dramatique. Vous parliez de l'enquête IFOP récente. Je pense qu'il y a en réalité, il y a des raisons aussi d'optimisme. Les jeunes, selon d'autres enquêtes, font confiance à la science. Une enquête Ipsos de 2021, par exemple, montre que les jeunes canadiens, c'est la première sur laquelle je suis tombée, après je cherchais la France, font confiance à la science et s'intéressent à la science et font confiance aux scientifiques. Ma peur, c'est qu'on projette beaucoup de peur sur cette nouvelle génération et qu'on a en face un peu une génération qui est toujours négative, toujours contre.
Votre peur, c'est la manière qu'on aurait de présenter uniquement des jeunes. Alors si je reprends un ou deux chiffres de cette enquête, un jeune français sur six pense que la Terre est plate. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi sur la qualité de la réception de l'enseignement.
Des sciences, éventuellement.
C'est l'enseignement ou sa réception, mais enfin, il y a quelque chose. Et puis, un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. C'est quand même assez énorme. Alors, on peut mettre les sondages en perspective, mais est-ce que c'est aussi une manière de s'intéresser à la jeunesse plutôt qu'aux autres générations? Est-ce que cette méconnaissance de la science, elle est spécifique à la jeunesse? Forcément,
ça doit
vous interpeller.
Je pense que, et je répète, d'autres enquêtes en réalité le montrent, c'est une génération, comme je pense, c'est un peu typique des adolescents curieuses, qui explorent, qui se posent des questions, qui a envie de comprendre, qui a envie aussi de s'engager. On le voit avec les mouvements écologiques ou franchement, il y a beaucoup plus de jeunes générations que des gens de mon âge qui se battent tous les jours ou qui prennent.
Le succès de l'astrologie pour vous, c'est plus.
Je pense que c'est un
chose
phénomène
comme de la recherche personnelle.
Bon, je pense qu'on passe par des phases d'abord, d'accord. Mais ça c'est pas nécessairement à moi de le dire, mais les questions qui sont posées là, justement, à mon avis, dans cette enquête, révèlent beaucoup plus sur les peurs de nous, les adultes, par rapport à la nouvelle génération, que les peurs des jeunes. On leur demande, est-ce que vous croyez que l'homme a été créé par Dieu et non pas être le fruit d'une longue évolution? on projette la peur qu'ils choisissent, entre guillemets, la religion, l'obscurantisme face à la science. Mais on ne leur pose pas la question, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'évolution? Qu'est-ce que vous pensez de la science? Une question plus ouverte qui leur permettrait éventuellement de montrer qu'ils sont un peu plus subtils que ça et que face à certaines questions, ils sont tout simplement mis en difficulté. Donc, moi, ce que j'ai senti dans cette enquête, c'était un peu, mais sans dire qu'elle est mal faite, hein, mais c'était un peu un présupposé qui était déjà là. Ces jeunes, ah, ils vont sur TikTok, ah, ils sont terribles, ils ne s'informent que par là, et du coup, ils croient à tout et à tout et à tout, et ils font, leur cerveau devient façonné par ces nouvelles technologies, ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. Par exemple, c'est qu'on leur raconte à l'école. Et la manière dont ces questions étaient posées poussait un tout petit peu à aller vers cette direction. Si je dois choisir si je suis religieux, par exemple, si j'ai une foi et que je dois choisir si déclarer dans un questionnaire que, je ne, que Dieu n'a pas créé l'homme, ben je vais avoir du mal. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait parfois dans ce questionnaire une volonté un peu de mettre en difficulté et de faire sortir le côté négatif de la force chez les jeunes, plutôt que de mettre, d'essayer de mettre en valeur les différentes facettes de ce qu'ils peuvent percevoir réellement dans la science.
Alors, il y a toujours un biais dans la manière dont l'époque regarde sa jeunesse. Cécile Vandevelde, ça peut nous amener à prolonger la réflexion que vous posiez tout à l'heure sur cette tension existentielle qui existe certes chez la jeunesse, vous l'avez étudiée, on peut la relever, mais finalement on demande aux jeunes de mettre un sens sur leur vie. C'est peut-être pas des questions qu'on pose aux autres générations, mais qui en disent long aussi sur nous, les adultes.
Mais oui, les jeunes sont le reflet de nous-mêmes et l'éducation qu'on leur propose, c'est tout à fait en fait le miroir de nos propres angoisses, de nos propres peurs, de nos propres façons de classer, de trier, de voir la société. Et je voulais prolonger sur ce que disait Elena Pasqualini juste avant moi, c'est que si on écoute par exemple certaines franges de cette jeune génération sur son rapport à la science, par exemple les rhétoriques dans les mouvements pro-environnementaux, c'est au contraire écouter la science, on est complètement dans le système inverse, écouter la science et c'est même un, quand on regarde les slogans qui sont dits dans ces mouvements, qui sont très portés aujourd'hui par les adolescents, donc plutôt urbains, plutôt des milieux, plutôt diplômés, mais au contraire, c'est « écoutez-nous » avec même une inversion des générations. Margaret Mead, elle a écrit un ouvrage assez célèbre qui s'appelle « Le fossé des générations » en 68, donc juste au moment du mouvement, en disant que dans certains moments de grands changements sociaux, on pouvait voir une inversion de la socialisation. C'est-à-dire que finalement, les générations jeunes, certes, elles absorbaient ce qu'on leur donne, mais elles peuvent aussi proposer des choses nouvelles à nous de les entendre, à nous de les écouter. Et si on écoute les mouvements pro-environnementaux, par exemple, en tout cas dans les mots, dans les slogans, dans ce qui est exprimé, il y a l'idée que, par exemple, il y a des slogans comme « J'ai quitté mes leçons pour vous en donner une. Je croyais que les adultes devaient être ceux qui étaient responsables. » Il y a l'idée d'une inversion de la socialisation, de la transmission, et que le message porté par les jeunes, qui serait celui, dans le cas du mouvement pro-environnemental, d'écouter la science, il est à écouter, et ils sont détenteurs d'une vérité que les adultes peinent à entendre. Et donc là, on est dans le schéma inverse d'effectivement d'une confiance à la science qui est portée, alors certes, par certaines franges de ces jeunes générations, mais qui appelle au contraire les politiques et les générations aînées à écouter d'autant plus la science. Et quand on avait fait une enquête il y a quelques années sur Génération Quoi, on avait demandé aux jeunes générations de s'auto qualifier. Donc, on avait mis Génération 3 petits points, qu'est-ce que vous mettez comme mot? Alors, certes, le premier mot qui était apparu, c'est un mot plutôt d'angoisse, c'était Génération sacrifiée. Donc, c'est très dur, économiquement, socialement, Génération sacrifiée. Mais derrière, il y avait des mots beaucoup plus positif sur génération du changement social et génération du changement technologique. Et donc là, effectivement, plutôt des jeunes générations qui se voient détenteurs d'un nouveau pouvoir également, dans les choses positives de cette génération, d'un nouveau pouvoir technologique, de nouveaux outils qui permettent de se collectiviser davantage, qui se permettent de relayer des paroles, de mettre en résonance des expériences, et qui voyaient justement l'idée du futur, la génération du changement, génération qui crée le futur avec la technologie. Donc il y a aussi des dimensions dimension positive de cette génération et de leur représentation de l'avenir qu'on peut tirer. Mais c'est vrai, pour revenir à votre question, sur le rapport à l'avenir, on est dans une société, et l'historienne Myriam Revaud-Allon l'a montré, elle a dit qu'on est dans une temporalité de crise. C'est-à-dire depuis les années 70, donc à peu près depuis les premiers témoignages qu'on a entendus au début de l'émission, il y a l'idée qu'en fait, on est dans un temps de crise, donc avec une rupture du rapport à l'avenir. La difficulté de se projeter collectivement dans l'avenir avec cette temporalité, justement ce temps qui serait celui d'une crise. Et quand on interroge les jeunes, par exemple, on leur avait déjà posé la question aux jeunes adultes, donc encore une fois, il y a quelques années, sur est-ce que vous avez l'impression qu'on sortira un jour de la crise ? Et à 66%, c'était non. Donc, on crée un rapport au temps nous-mêmes avec un discours social, politique de crise. On crée un rapport au temps où il y a une rupture par rapport à la vision de l'avenir. On peine à se projeter positivement, mais à se projeter tout court dans l'avenir. Et bien sûr que les jeunes, ils portent cette angoisse qu'on leur donne. Pas tous, on va pas généraliser. Il reste des jeunes optimistes, il reste parfois des regards positifs sur l'avenir. Mais c'est vrai que les indicateurs statistiques nous indiquent une montée d'angoisse, une montée de pessimisme par rapport à son avenir individuel et à son avenir collectif. Et selon moi, c'est vrai que ça vient fortement d'un double discours. On voit la difficulté à vivre complètement un double discours qu'on leur donne. Le premier pan de ce double discours, c'est « vas-y, construis ton chemin ». On est dans une idée que chacun, on va inventer notre vie. Donc on leur met une injonction un peu au projet. Projette-toi, choisis tes chemins d'études, choisis ton chemin de vie, avec cette idée qu'on serait de moins en moins dans des vies héritées, de plus en plus dans des vies soi-même à construire. Et donc, il y a cette injonction forte, c'est un travail de se projeter, c'est un travail de se définir, de se dire, de se créer un avenir, de se construire une vie. Donc, il y a un engagement très fort des adolescents, mais ça descend les âges, dès les plus jeunes âges, de se créer un chemin de vie, de se projeter dans l'avenir. Mais en même temps qu'on leur dit ça, donc cette norme d'autonomie, cette norme de décision sur sa vie, on dit, attends, tout est bouché. Ce discours de fermeture, au contraire. C'est un peu comme un peu une double mécanique. Chemin ouvert, porte fermée. Et ça, c'est très anxiogène pour les jeunes, effectivement. Parce qu'il y a l'idée de se créer, de pouvoir choisir sa vie. Et toutes les tensions que j'entends chez les jeunes adultes, cette angoisse, elle est sur les choix de vie. Est-ce que je vais pouvoir réussir à vivre mes aspirations que j'ai construites ? Est-ce que je vais pouvoir réussir à vivre pleinement ma vie ? Et dans toutes les usures par rapport au système, parce qu'il y a un discours de l'épuisement, de devoir s'ajuster à un système scolaire, une mise en compétition par rapport aux autres, avec ce voile d'incertitude, l'idée que tout est bouché, c'est extrêmement anxiogène. Comment choisir quand tout serait fermé. Il y a un voile d'incertitude, presque un écran de fumée mis sur les opportunités futures. C'est même disproportionné par rapport à la réalité. On voit qu'au final, on y arrive à construire sa place, à construire son chemin, à construire sa vie. Mais quand on écoute les jeunes, il y a une peur disproportionnée, mais qui est créée justement par ce double discours. Vas-y, choisis, et puis finalement, ajuste-toi, conforme-toi, joue la compétition scolaire. Et ça, c'est effectivement, je vois dans les tensions entre l'être et ce qui est vécu comme un système qui fait mal, c'est ça. On sent qu'il y a une difficulté à se sentir complètement exister dans un système si compétitif. La compétition scolaire a pris tellement de poids, la performance scolaire, qu'effectivement c'est très anxiogène.
Cécile Vandevelde, est-ce que ça change quelque chose dans votre position d'enseignante? Et je vais poser la même question à Elena Pasquinelli. Quand vous avez affaire à des étudiants, à des élèves, à des jeunes en général, fortes de ces savoirs sur la crise du futur qui se renforce, elle n'est pas nouvelle, on l'a connue hein, dans notre propre jeunesse aussi. On peut faire référence à la génération perdue, à la littérature, à Fitzgerald, à plein de générations anciennes. Mais elle se renforcerait. Alors qu'est-ce que ça change pour vous?
Alors, dans mon cas personnel, alors c'est là aussi en tant que citoyenne et en tant que professeure, oui, ça change des choses. C'est que j'ai l'impression que la première chose, c'est de donner les clés du système. Face à un écran de fumée, parce qu'il y a un écran de fumée sur les perspectives d'avenir. Il y a la pression parentale, il y a le discours social qui fait qu'il y a l'idée qu'il y aurait peu d'opportunités. Et face à cet écran de fumée, en tout cas moi, ma petite réaction à ma petite échelle, c'est d'essayer au maximum de donner les clés du système d'après. C'est-à-dire comment construire ses des choix professionnels, faire venir des anciens étudiants et étudiantes dans la classe, sortir aussi de la classe pour aller découvrir le monde autour de soi, donc sortir de l'université pour rencontrer des professionnels dans leur propre secteur. Et c'est vrai que je crois que donner les codes de l'information, c'est donner du pouvoir d'agir aussi, du pouvoir de choisir. Et comme la tension aujourd'hui, elle est très sur à la fois la performance scolaire et à la fois les choix de vie, pouvoir bien choisir et pouvoir se donner les moyens d'y réussir. Pour moi, dans mon cas, c'est vrai que c'est plutôt par l'expérience, de répondre par donner les clés du système pour s'orienter, croiser et lever ce voile d'incertitude en croisant et en discutant avec des professionnels de leur milieu futur et surtout aussi des anciennes étudiantes qui permettent de lever la pression et de donner certains codes et d'ouvrir les chemins, c'est-à-dire au lieu de voir l'écran de fumée de ce qui serait un manque d'opportunités et un manque d'avenir, de voir les chemins des possibles, même si ces chemins ils sont imparfaits, ces chemins beaucoup d'étudiants viennent parler de précarité, de difficultés à s'insérer, parfois de salaire trop bas. Bon, après, chacun c'est avec différentes problématiques, d'endettement ici, par exemple, plus. Mais de donner les clés de l'orientation. Et moi, si j'étais ministre de l'éducation, une des premières choses que je ferais, c'est d'introduire un cours, justement, à l'intérieur de l'école et du système scolaire lui-même, sur les codes. Comment, pour le cas de la France, comment répondre à Parcoursup? Qu'est-ce que c'est choisir une université? Rencontrer des professionnels de différents milieux au niveau local? Je trouve que déjà ça désamorcerait cette angoisse vis-à-vis de l'avenir qui est liée aussi à toute une pression et un discours. Et ça permettrait de mieux voir les options et de mieux y répondre.
Avant de choisir, peut-être savoir que c'est possible de choisir. Elena Pasquinelli, comment vous vous situez en tant qu'adulte, en tant qu'éducatrice? Vous avez écrit sur les internets, et on va y revenir, finalement ce qui nous engage sur le discours que l'on tient sur le futur, sachant que ce discours, socialement, on l'a entendu, il n'est pas très positif.
Non, il n'est pas très positif. Et bon, là je porte le cas de la France. La France, l'éducation en France, plein de points positifs. Un point négatif majeur, c'est la fermeture par rapport aux différents milieux sociaux. C'est-à-dire, on entre à l'école avec des différences sociales importantes, on sort de l'école avec ces différences sociales qui sont restées exactement les mêmes. Je pense que c'est un échec majeur de n'importe quel système éducatif, de ne pas être capable de donner des opportunités et de faire sentir ces opportunités, de permettre du coup de se projeter, mais réalistiquement, dans un futur, parce qu'on donne non seulement les clés, mais qu'on donne vraiment les contenus et la préparation et l'aide et le support qui est nécessaire pour que des enfants qui arrivent avec un vocabulaire qui est plus réduit que d'autres, avec des parents qui ne peuvent pas suivre l'enfant à la maison pour faire les devoirs côte à côte et pour corriger la faute d'orthographe. C'était mon cas, la faute d'orthographe, c'était impossible à corriger pour mes enfants, mais pour beaucoup d'autres choses, je pouvais donner d'autres clés à mes enfants. Ben, c'est pas le cas de tout le monde, et l'école française n'arrive pas à donner et à combler ce vide et continuer à le creuser. Je pense que ça, c'est la chose la plus angoissante en ce qui me concerne de l'école française. En tant qu'enseignante, mais pour les grands de master, je pensais avoir traversé la pire période avec la crise Covid, de voir des jeunes qui ont un peu plus de 20 ans, angoissés sur le futur, seuls, se sentant un tout petit peu abandonnés, un tout petit peu perdus à la maison. Et cette année, il n'y avait pas la crise Covid comme les années précédentes. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la Covid. Et pourtant, j'ai trouvé beaucoup d'étudiants magnifiques. J'ai eu une classe, j'aurais passé toutes mes journées avec eux. C'était sublime d'intelligence, d'empathie, mais angoissé par le besoin d'être excellent. Et ça, c'est l'autre grande angoisse que moi j'ai par rapport au système éducatif, c'est ce besoin d'excellence. être moyen n'est plus, on peut plus être normaux. On est obligé d'être excellent parce que, comme le disait la collègue, on est dans un système de compétition à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, on sent cette compétition. Moi, j'habite dans le 5e arrondissement de Paris et je suis entourée de personnes qui avaient l'angoisse quand nos enfants avaient 6 ans. Est-ce qu'ils pourront aller à Louis le Grand ou Henri IV, c'est-à-dire les grands lycées parisiens? Et l'angoisse de l'excellence commençait à 6 ans. Elle était projetée inévitablement sur ces pauvres bouts de chou qui n'auraient jamais pensé que c'était indispensable pour le succès de la vie d'arriver à Henri IV en jour. Et aujourd'hui, je retrouve ces mêmes enfants grandis, qui ont 20 ans, qui ont passé l'école normale, qui font un master de sciences cognitives, mais qui sont angoissés parce qu'on leur demande à chaque fois et chaque jour et à chaque moment d'être excellents. De ne pas être juste des personnes normales qui auront quelque chose à apporter, mais qui peut-être ne vont pas découvrir la prochaine voiture électrique qui à hydrogène. Donc ça, je trouve, c'est quelque chose qui est triste et qui vient de nous, qui vient d'une génération, qui vient d'un système de l'excellence où la compétition prime sur tout le reste.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des plus petits, ce qu'on relève, c'est une forte demande concernant la pédopsychiatrie qui a beaucoup de mal à répondre. On lit des enquêtes sur des services totalement saturés avec des attentes extrêmement élevées pour des causes très diverses. Hein. C'est pas totalement le sujet de cette émission. Et aussi, un énorme bond du nombre d'enfants dits HPI, au potentiel intellectuel. Alors nous, on a, au bureau, on reçoit une littérature énormissime sur le sujet. Est-ce que c'est symptomatique de ce que vous avez dit pour vous? Est-ce que c'est dans la continuité, Elena Pascouzini? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Je pense que c'est dans la continuité. C'est ce besoin de sortir de la moyenne, d'un côté ou de l'autre. Alors, mon enfant, il a ceci, il a cela, il a HP, il est au potentiel, et du coup, il va mal, parce qu'on a besoin aussi de projeter sur ces pauvres enfants que même s'ils sont très intelligents, ils doivent aller mal à un certain moment ou à un autre. Ils vont mal parce qu'ils ont trop de technologie, ils vont mal parce qu'ils sont trop intelligents, ils vont mal. Et à un certain moment, ils commencent à aller mal, ces pauvres enfants, parce qu'on leur projette aussi toute cette angoisse, au fond, et cette incapacité qui est la nôtre à réalité de trouver des solutions. Ça, c'est l'autre angoisse que j'ai. Vous disiez au début les responsabilités qu'on met sur les enfants. La crise climatique, je pense que ce soit l'exemple le plus clair de cela. Je suis tout à fait favorable et même je pense que c'est très très important d'éduquer les enfants au changement climatique, à la science du climat pour qu'ils puissent comprendre cela. Mais que cela ne devienne pas l'excuse pour ne rien faire, c'est-à-dire que ils trouveront la solution, c'est à eux de trouver des solutions. On les éduque pour qu'un jour ils trouvent des solutions, pour qu'un jour ils résoudent tous les problèmes de l'humanité. Entre-temps, nous, on continue à brûler, à le fuel, à prendre la voiture, manger de la viande. C'est pas un souci parce que de toute manière, on est en train d'éduquer une nouvelle génération pour résoudre les problèmes du futur. Ben, qui dit futur dit nouvelle génération. En quoi je serais responsable de cela? Donc, on a un peu baissé les bras par rapport, je pense, à nos responsabilités d'équité sociale, nos responsabilités de changer un système pour donner à tout le monde des opportunités, pour éviter que les enfants se trouvent un jour à devoir résoudre des problèmes qu'on a créés nous. Et se baisser les bras, ça retombe effectivement comme une anxiété sur cette génération.
Cécile Van de Velde, bon, vous connaissez aussi le système français dont on a parlé. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se retrouver au Canada dont vous devez nous parler. Mais à ce moment de l'émission, il y a une question que je me pose, c'est celle du bonheur parce que on fait aussi des enfants dans la perspective d'être heureux avec eux et puis dans la perspective que eux le soient. Enfin, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on perd de vue quand on le relie à l'éducation?
Oui, moi je crois que ça c'est un réel problème. C'est que
J'ai l'impression qu'on demande tellement, la compétition scolaire est devenue si intense parce qu'on a l'impression que le marché du travail ou les sociétés ferment leurs portes aux jeunes, ça accentue le poids sur la compétition scolaire. Et ce que je vois se développer chez les jeunes, c'est un peu le report du bonheur. Oui, le bonheur après. J'aurai mon bonheur après et pour l'instant, j'investis dans cette compétition scolaire. Et ce que je vois pointer, c'est justement, Elena Pasqualini disait justement ce besoin d'être excellent et ça va vers aussi une pression à la conformité. Ça va avec, c'est l'idée de se conformer au système. Le système est tellement dur et tellement incertain, comme il n'y a plus de garantie, on joue la compétition scolaire, mais on n'a pas la garantie que ça marche. Et donc, dans ce cas-là, ça va créer une surintériorisation, je dirais même une incorporation. Donc, ça prend le corps, ça prend la santé mentale de la compétition. Et ce que je vois se développer, c'est presque un cynisme social. C'est-à-dire, j'appelle ça les loyaux cyniques. C'est-à-dire, on est obligé de jouer les règles du jeu du système pour pouvoir s'intégrer socialement et vivre plus tard sa vie. Donc, on reporte son propre bonheur ou l'idée de son propre bonheur, et pour investir dans les règles du jeu du système. Et ça fait quelque chose, au final, assez conforme, parce qu'on se surconforme. Je vois que les souffrances sont très liées à l'idée de s'être ajusté, surajusté, réajusté aux exigences d'un système compétitif, inégal aussi, parfois vécu comme injuste, parfois vécu aussi comme un jeu de dupes, donc comme faux, et donc de jouer la course à cette intégration sociale pour reporter son bonheur et, au final, payer de sa propre santé mentale et de sa propre liberté. Parce qu'il y a une souffrance aussi du manque de liberté dans les choix, de devoir s'ajuster à ce système qui est vécu comme si usant et si difficile dans la répétition. Donc je dirais que oui, le bonheur, bien sûr, reste un objectif. Mais je sens que dans les discours, soit on arrive à trouver des petites respirations quotidiennes, des petites échappées pour pas subir complètement le système. Et donc il va y avoir des bulles de bonheur qui sont presque vécu comme des résistances face à la compétition, face à le fait d'avancer dans sa propre vie. Mais il y a beaucoup l'idée de reporter son propre bonheur à plus tard pour jouer quelque part de façon assez cynique. Et Parcoursup a accentué aussi un petit peu ça, pour jouer la carte du système, parce que c'est pas le moment de se faire plaisir à soi, c'est le moment de répondre aux exigences de la société. C'est vécu comme tel, c'est le système qu'on a créé par l'éducation avant l'entrée sur le marché du travail. Et c'est vrai qu'on a perdu, je crois, un peu l'idée de l'éducation plaisir. Ou en tout cas, elle existe encore, bien sûr, pour des professeurs, pour des enseignants qui sont portés par la passion, pour des jeunes qui ont encore la flamme. Mais je vois des fois des flammes s'éteindre face aux exigences de la compétition. Et donc, je trouve que une des façons de repenser ou de penser mieux le système d'éducation, qui a ses forces aussi, hein, mais ce serait de cultiver les envies, de respecter les passions, respecter les désirs, ou essayer de les porter au maximum. Et donc de lever peut-être une pression à une certaine conformité à l'excellence et d'accepter des profils peut-être plus hybrides, plus différents. Ne pas mettre la barre toujours... En fait, la barre est placée tellement haut sur l'excellence que c'est vrai qu'on standardise quelque part les parcours. Et d'accepter des profils différenciés, des niveaux différenciés, même dans les embauches d'entreprises, ce serait tellement... à mon avis, plus porteur aussi en termes de bonheur, d'avoir droit que le chemin soit beau et pas uniquement un investissement pour le futur.
Et cet investissement pour le futur, il est d'actualité, Cécile Vandevelde, puisque vous devez quand même suivre un minimum, je pense, l'actualité française. Je ne vous apprends pas qu'une réforme sur les retraites a été proposée par le gouvernement, qu'elle est très contesté, y compris parmi les étudiants. Et je vous invite à écouter Imane Ouelhadj. Elle est présidente du syndicat UNEF et elle était au micro de Quentin Lafay dans les matins du samedi, il y a donc 2 jours.
L'avenir que nous dessine le gouvernement avec cette réforme des retraites, ça n'a rien de beau, ça n'a rien de poétique, et bien au contraire. Aujourd'hui, en tant que jeune, en France, en 2023, on se dit qu'en tant qu'étudiant, notre quotidien, c'est faire la queue dans des distributions alimentaires pour pouvoir se nourrir. Et lorsqu'on entend en fait le gouvernement présenter cette future réforme des retraites, ce qu'on se dit, c'est que finalement, à 67 ans, lorsqu'on pourra enfin partir à la retraite, on n'aura pas de vacances, on pourra pas finir notre vie tranquillement, et que notre quotidien, en fait, à 67 ans, sera aussi encore faire la queue dans des banques alimentaires pour se nourrir. Et c'est ça, en fait, qui inquiète la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé jeudi dernier aux côtés des syndicats professionnels, justement pour notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a un contexte d'inflation qui est record. Et en tant qu'étudiant, en fait, c'est très compliqué de pouvoir se projeter, en fait, sur sa vie et se projeter dans une vie future qui serait joyeuse. C'est quasiment, en fait, impossible pour nous d'avoir, en fait, des perspectives d'avenir et de tout simplement avoir le droit de rêver à un avenir aujourd'hui.
Le droit de rêver que réclame pour elle et sa génération. Donc, Imane Welladj, présidente de l'UNEF. Ça doit vous interpeller, Cécile Van de Velde.
Oui, complètement, parce que ce discours, eh ben, je l'entends chez des nombreux jeunes, alors chez beaucoup de jeunes français, mais aussi des jeunes d'ailleurs, des jeunes de Montréal, des jeunes de Santiago, de Hong Kong, de Madrid. C'est la rhétorique aussi du vol de vie, la pression financière. C'est très fortement accentué sur les parcours des jeunes, avec les prix des logements, avec les prix des études. Là, elle parle de l'inflation. Mais ça va avec aussi la pression temporelle. Le temps libre qui manque, parce qu'on travaille à côté, parce qu'on est multi, on est professionnalisé très vite, très tôt. Et donc, cette accentuation d'une pression temporelle, financière sur les parcours, on sent que la rhétorique de pas pouvoir justement vivre pleinement sa vie, d'être empêché de vivre par ce système. Alors là où la rhétorique est très située en France, l'idée des banques alimentaires, la pénurie, la question de la précarité alimentaire est très forte chez les étudiants en France pour des raisons qu'on connaît. Une alliance État-famille qui est assez floue sur les parcours des jeunes français. Mais cette idée de que l'État, cette attente de l'État, le système c'est l'État en France, et qu'il vole encore la vie, c'est vrai que c'est très ancré chez les jeunes français qui ont plus que d'autres, qui ont une rhétorique du plafond de verre générationnel. C'est-à-dire l'idée que les portes sont très fermées. Dans les discours des jeunes Français, quand on les écoute, et ça va même au-delà des taux de chômage effectifs, etc., il y a l'idée que les portes sont fermées et qu'il faut vraiment pouvoir percer ce plafond de verre générationnel et un discours aussi qu'on est mis les uns contre les autres. Donc cette idée de compétition dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, le fait qu'il y avait déjà cette tension un peu existentielle sur le fait que on ne peut pas vivre pleinement sa vie, qu'on nous enlève de la vie, qu'on nous enlève de l'avenir. Le fait qu'il y a la question de la retraite et de la projection dans le temps long, ça ne fait que rajouter à cette rhétorique qui existait bien avant la réforme des retraites. Mais ça ne m'étonne pas que ça aille chercher des jeunes générations étudiantes qui aujourd'hui ont déjà l'impression de payer de leur présent. L'idée de la double peine, payer à la fois son présent, par son présent, c'est ce qu'elle dit, et payer aussi par son avenir, par une perte d'avenir, une perte d'opportunité pour son avenir. Et là, il y a les deux qui jouent, cette double peine générationnelle, c'est un discours qui est global, c'est-à-dire qu'on l'entend dans beaucoup de sociétés, mais qui est très fort en France, par les conditions justement d'éducation avec une forte compétition scolaire et des difficultés d'intégration sur le marché du travail.
Cécile Van de Velde, comment font les pays, j'ai une petite idée pour vous avoir un peu lu dans ma vie, mais et quels sont-ils ces pays qui réussissent mieux du côté de l'espoir qui est donné aux jeunes, aux ados, aux jeunes qui étudient, aux jeunes qui travaillent?
Alors, bon, ça, c'est des choses assez connues maintenant, mais c'est vrai que c'est les pays, quand on regarde les statistiques et même les toutes dernières après la pandémie, ça reste, même si ça bouge, ça reste les pays dits sociaux-démocrates du nord de l'Europe, donc Danemark, Suède, Norvège, Finlande, un peu Pays-Bas, de façon plus hybride, qui aujourd'hui réussissent à construire la plus forte confiance en la société et la plus forte confiance en son avenir individuel. Donc ça baisse quand même par rapport au début des années 2000, donc il y a des choses qui bougent, mais ça reste au niveau mondial les sociétés qui arrivent à construire le plus des politiques de l'espoir. Et qu'est-ce que c'est ces politiques de l'espoir? On pourrait un peu les résumer avec l'expression les racines et les ailes. C'est-à-dire les racines, c'est une sécurité d'existence. C'est que l'État intervient pour assurer la sécurité minimale d'existence, c'est pas forcément énorme pour vivre, mais par à la fois des aides aux études, des aides pour les jeunes en situation qui sont pas étudiants, qui attendent sur le marché du travail, des aides relativement généreuses par rapport à d'autres pays européens. Il y a cette idée que il y a pas la peur de la chute qui est par exemple très ancrée chez les jeunes Français, la peur où on peut avoir rien, la peur du dénuement, et qui est très diffusée dans tous les milieux d'ailleurs chez les jeunes Français. Là, le fait qu'il y ait une sécurité, une racine entre guillemets, on peut vivre son présent et donc il y a déjà une angoisse qui est un petit peu levée. Mais il y a aussi les ailes, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives. L'idée par exemple de pouvoir retourner aux études. Donc ça veut dire que de ce fait, la compétition scolaire, elle existe, mais elle est un peu moins cruelle ou aiguisée parce que il y a l'idée qu'on peut y retourner. On peut se reformer, on peut bifurquer dans sa vie. Donc on a le droit de choisir, mais aussi de rechoisir sa vie par le retour aux études notamment, ou par des passerelles entre différents secteurs d'emploi qui sont un petit peu plus facilités. Et donc il y a cette idée que on a le droit à l'erreur et qu'on peut avoir confiance dans son propre avenir. On a le droit de se tromper ou de, à l'échelle de la trentaine, quarantaine, de revenir aux études et de changer de métier. Et ça, c'est ultra contemporain dans l'idée qu'effectivement, il y a une aspiration des jeunes générations aujourd'hui pouvoir expérimenter, rechoisir et ne pas être forcé à des choix très précoces et très anxiogènes, comme pour l'instant, malheureusement, la société française reste à faire. Alors, j'ai parlé des sociétés social-démocrates du nord de l'Europe et les sociétés plus libérales, les États très libéraux, par exemple, comme la Grande-Bretagne, comme de façon un petit peu plus bigarrée le Canada et encore plus bigarrée le Québec, en Australie, on voit que c'est des sociétés qui construisent quand même de l'espoir. Mais que l'espoir est fort chez les adolescents, puis qui s'atténue un petit peu avec l'âge et qu'à la fin de la vingtaine, il y a quand même des discours d'usure. Donc c'est un espoir qui est un peu plus confronté à l'échelle du temps et qui est mis à l'épreuve à l'échelle de l'intégration sociale. Donc c'est un espoir qui tient moins dans le temps, avec l'âge, qui s'use avec l'âge, mais ils arrivent quand même à créer l'idée que les jeunes sont pas qu'il ne faut pas avoir peur du changement social et qu'on peut avoir confiance en la jeunesse. Dans ce sens que, vas-y, joue ta carte. C'est assez implanté, effectivement aussi par l'idée du retour aux études. Ce que la France offre moins par rapport à d'autres sociétés, c'est effectivement cette potentialité de rebâtir sa vie, de bifurquer, à la fois dans le discours social, c'est-à-dire dans l'idée même. On reste sur une idée du métier à vie. Et ça, ça crispe, en temps de pénurie d'emploi notamment. Et même dans les institutions, même s'il y a eu des progrès ces dernières années, ça reste très très marqué et Parcoursup encore une fois a accentué cette idée du choix précoce et cette pression au choix précoce et cette déterminisme en fait qui est assez anxiogène pour les jeunes. Dans les institutions, il n'y a pas encore cette lever le voile de la pression et pouvoir avoir le droit de choisir, rechoisir sa vie à tout âge. Et ça, je crois que vraiment, si on y arrive, même si on prend ce chemin-là, il faut aller encore plus loin pour pouvoir lever l'anxiété qui est aussi un voile d'incertitude qu'on a mis sur les parcours.
Choisir sa vie, c'est ce chemin de la liberté qui semble pouvoir rendre les jeunes heureux, peut-être un petit peu plus heureux, un petit peu plus confiant dans leur éducation, ce qui se joue en miroir pour les éducateurs qui sont à la fois, et c'est là où c'est très intéressant, les promoteurs de cette angoisse du futur et en même temps les plus inquiets de la manière dont elle peut se finalement trouver de l'écho chez, par exemple, nos propres enfants, les jeunes auxquels nous tenons et que nous aimons. Ce sont toutes les questions que nous posons ce soir dans cet Être et Savoir consacré à la Journée mondiale de l'éducation. Je vous dis un mot de cette Journée mondiale de l'éducation qui se déroule tous les ans depuis 5 ans, le 24 janvier, qui est organisée en partenariat avec le Learning Planet Institute. On va consacrer de nombreux programmes à l'éducation cette semaine sur France Culture, encore plus que d'habitude avec Être et Savoir, puis souvent d'autres collègues. Je vous en dirai peut-être un peu plus à la fin. On a entendu que les inégalités étaient le sujet des matins, on en a parlé aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, c'est l'angoisse environnementale. Énorme dossier, si j'ose dire, aujourd'hui, pour les jeunes dont j'ai parlé avec Lélia Benoît. Elle est pédopsychiatre, chercheuse à l'université de Yale, donc un petit peu plus près du Canada et de vous, Cécile Vandevelde, que de nous, et à l'INSERM. Elle mène actuellement une étude sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale des enfants. Et je lui ai demandé à Lélia Benoît quel lien elle faisait entre cette éco-anxiété et le sens des apprentissages du côté des enfants, mais aussi des adultes.
L'éco-anxiété, qui est plutôt cette angoisse de fond hein, qui anticipe le changement de l'environnement, peut empêcher les enfants d'apprendre. Notamment pour les enfants qui sont le plus lucides sur l'état de la planète et son avenir, on peut avoir un sentiment de paralysie. Cette paralysie, elle est liée au fait que ce qu'on leur demande d'apprendre à l'école aujourd'hui correspond pas à ce dont ils auront besoin demain, ou même aujourd'hui pour être utile. Ils ont l'impression de vivre un quotidien qui est absurde, qui n'a pas de sens, puisqu'on leur demande d'apprendre des choses dont ils savent bien qu'ils n'auront pas besoin demain, mais par contre, on ne leur donne pas les outils pour avoir une utilité en tant que citoyen de demain, lutter contre le changement climatique et avoir un mode de vie plus sobre. Un des freins au travail sur l'écologie, c'est la crainte des adultes d'angoisser les enfants. Et cette crainte, elle est présente à la fois chez les parents qui souhaiteraient parler d'écologie avec leur enfant, mais aussi chez les professeurs qui vont craindre de susciter des réactions d'angoisse chez les enfants et les adolescents s'ils abordent la question du climat. Il y a un risque de les inquiéter de manière excessive ou inutile, donc il est très important de pouvoir y réfléchir pour trouver les bons mots. Néanmoins, il y a des vérités difficiles dont les enfants ne pourront pas être maintenus dans l'ignorance pour des décennies. Des vérités difficiles, par exemple, la mort, hein, le fait que le deuil existe, la méchanceté, des choses comme ça, la jalousie. Bon, tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine et les enfants doivent pouvoir apprendre à gérer ces émotions-là.
Donc, en quelque sorte, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, et donc il faut trouver les bons mots pour en parler. Évidemment, quand on aborde le sujet, surtout si on aborde le sujet de vérité difficile, c'est important de pouvoir ensuite transitionner vers quelque chose de positif. Donc quand on parle d'écologie à l'école, dans la salle de classe, c'est important de pouvoir proposer ensuite une activité qui est positive, porteuse d'espoir, où les enfants se sentent acteurs. Mais néanmoins, on ne pourra pas faire l'économie de cette discussion difficile. Le premier pas pour un adulte, c'est déjà de s'interroger sur son propre positionnement par rapport au climat, quelles sont les émotions qu'il ressent. Ça va permettre de, à la fois, pouvoir digérer ses émotions et de ne pas les projeter sur l'enfant. L'étape suivante, c'est de voir comment je peux accompagner l'émotion de l'enfant. Beaucoup d'adultes sont très mal à l'aise quand les enfants expriment de la tristesse. Ils aimeraient absolument les consoler immédiatement. Et c'est vrai que c'est dur de voir un enfant être triste ou un enfant pleurer. Néanmoins, ça ne l'aide pas. Ce que l'enfant retient quand l'adulte essaye de le distraire ou de changer de sujet, de lui faire penser à autre chose quand il est triste, ce qu'il retient l'enfant, c'est « ma tristesse met l'adulte mal à l'aise ». Il faudrait que je sois jamais triste ou il faudrait que je montre jamais ma tristesse puisque l'adulte, je vois, est mal à l'aise. Il faut que les adultes sachent que l'émotion, y compris les émotions qui sont qualifiées de négatives comme la tristesse, la colère, la honte, la peur, etc., sont des émotions que le corps peut traverser. C'est-à-dire, c'est comme si on digérait des aliments, si vous voulez. On doit pouvoir laisser le corps faire son travail. Il faut laisser l'enfant pouvoir être triste. Ça ne veut pas dire « va pleurer dans ta chambre » parce que sinon on le punit d'être triste, on l'abandonne. C'est être avec lui et pouvoir lui dire « oui, c'est vrai, c'est triste, moi aussi ça me rend triste ». Comme ça, l'enfant sent qu'il n'est pas seul, que son émotion n'est pas un problème, que d'autres personnes peuvent être là pour partager ça avec lui et que même un moment de tristesse partagé avec un adulte peut finalement être un beau moment où on se sent entouré et aimé.
Alors l'environnement, l'écologie, le futur de la planète, un futur parfois inquiétant, c'est un grand sujet pour la fiction jeunesse. On peut penser au film d'animation Wall-E qui date déjà d'il y a plusieurs années, je le conseille néanmoins. Plus récemment, j'interviewais l'autrice Laura Ansafou sur Nos jours brûlés, une dystopie qui raconte aussi un monde bouleversé par le changement climatique. Ces fictions sont-elles un bon outil pour apprivoiser l'éco-anxiété?
Je pense que les fictions ont deux vertus, hein, déjà de nous raconter des histoires et donc de raconter des histoires aux enfants avec des mots simples qui sont parfois plus faciles à comprendre. Et l'autre grande qualité des fictions, c'est de susciter l'émotion, de nous aider à être au contact de nos émotions. Donc je pense que c'est important de bien choisir les fictions, hein. Il est inutile d'exposer les enfants à des documentaires qui seraient trop choquants, puisque un excès d'émotions négatives peut aussi paralyser. Mais utiliser des fictions qui sont faites pour des enfants, que ce soit de l'animation, des livres, etc., avec une narrativité qui les aide, c'est vraiment un outil important. Ça donne les mots aux adultes aussi pour partager et ça donne des outils pour pouvoir faire circuler l'émotion entre les enfants et les adultes et savoir que c'est ok d'être triste. Ça montre qu'on est en contact avec la nature, ça montre qu'on est relié au monde qui nous entoure.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Elena Pasquinelli, vous me réclamiez de pouvoir réagir. Non. Et vous pouvez réagir, je pense, qu'en tant que spécialiste des sciences cognitives, évidemment, cette question des émotions, des éducateurs, hein, pas seulement des enfants, elle vous intéresse.
Elle m'intéresse parce que ça m'évoque, mais c'est une réflexion en cours, celle sur l'éco-anxiété. On s'occupe d'éducation au climat et du coup, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'on est en train d'induire des anxiétés excessives chez les élèves quand ils font des sciences du climat? Comment trouver les mots juste, mais ça m'a relancé sur la problématique de l'empathie. L'empathie, c'est une émotion, un sentiment qui est considéré de façon très positive, qui peut avoir des côtés extrêmement négatifs, comme l'anxiété. C'est-à-dire que quand on est très empathique, je vois l'ours qui est en train de mourir sur son glacier, c'est pas la meilleure image qu'on peut donner du changement climatique, mais ça me crée une émotion très forte d'empathie. Je ressens ce que l'ours ressent et du coup, je peux avoir, si l'émotion est trop forte, deux réactions. Une réaction qui est celle de juste me retirer complètement émotionnellement. Mais je ne veux pas souffrir. Et donc, pour ne pas souffrir, je vais juste nier la réalité de la souffrance, la réalité du changement climatique. C'est un risque à la fois de l'anxiété, mais aussi de l'empathie excessive, de l'empathie purement émotionnelle, disons comme ça. L'autre risque, c'est celui d'une souffrance psychologique qu'on veut éviter à tout prix. Il y a un psychologue américain, à Yale d'ailleurs, il était, je ne sais plus s'il est là encore, Paul Bloom, qui a écrit un magnifique livre « Contre l'empathie ». Ça peut surprendre le contre l'empathie, mais l'empathie a ses mauvais défauts. D'un côté, de pouvoir paralyser, parce que personne n'a envie de souffrir. De l'autre côté, d'être très limité à ce qu'on voit. C'est-à-dire de ne pas nous mettre en capacité de faire les bonnes actions pour ceux qu'on ne voit pas, qui sont loin, qui souffrent peut-être dans d'autres pays, mais sans qu'on puisse les voir, sans voir leurs yeux. Et aussi ce défaut de souffrance. Quelle est la recette de Paul Bloom face à la mauvaise empathie? C'est une empathie rationnelle. C'est-à-dire, c'est nourrir son empathie de rationalité. Et là, j'ajouterais de connaissance. Connaître le monde qui nous entoure, y compris connaître les mécanismes du changement climatique, par exemple. Savoir qu'est-ce qui se passe. Arriver à développer des outils, à donner à nos élèves, à nos enfants, des outils pour comprendre les mécanismes de ce qui existe autour d'eux. Ce n'est pas juste « la Terre est en train de brûler ». Qui est une image dramatique, mais qui peut susciter de l'empathie, mais qui, face à laquelle on ne peut rien. Comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, quels sont les mécanismes, avoir ces outils intellectuels, du coup cette éducation à la science, peut aider aussi à surmonter des réactions extrêmes qui vont de la négation, parce que je ne veux pas souffrir, à une souffrance émotionnelle intenable.
Donc l'éducation est une réponse.
Donc l'éducation est une réponse, oui.
Vous parliez de cette empathie, je fais le lien avec oui. Votre dernier ouvrage et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble bientôt, Elena Pasquinelli, comment les écrans nous transforment et nous révèlent à nous-mêmes. Le titre est intéressant parce que dans ce « nous », vous parlez de tout le monde, pas seulement des jeunes. Or, c'est souvent des jeunes qu'on parle quand on parle des « dangers » entre guillemets, des réseaux sociaux. Je ne prends pas pour moi l'idée qu'il n'y ait que des dangers avec les réseaux sociaux ou les internets. Mais tout de même, c'est un grand changement dans notre rapport au monde et donc dans celui des jeunes et donc dans l'éducation.
C'est un grand changement et c'est un changement qu'on a eu la tendance jusqu'ici en tant qu'adulte à raconter en termes de « eux, nous ». Ce qui est un peu triste parce que à la place de chercher à réduire ce gap générationnel qui est tout à fait normal, qui a toujours existé, qui doit exister, qui permet de donner un espace à la jeune génération aussi pour se construire contre nous, les vieux. Mais si on creuse encore ce gap, cette distance, on risque de moins les comprendre, de moins comprendre leur intelligence. Et du coup, on voit toujours ces deux projections qui sont d'un côté ils sont devenus capables de tout faire avec ces technologies, ils se débrouillent et nous, on est capables de rien. Donc, laissons-les faire d'un côté et comme ça, ils transformeront, ils sauveront le monde. Encore une fois, cette grande responsabilité sur cette génération où ils sont devenus complètement stupides. Ah non, mais alors là, vraiment, attention, zéro, mémoire, moins 5, capacité de compréhension, moins 10, ils sont tout le temps sur leur console et ils consomment que de la mauvaise information. C'est clair qu'il y a du vrai au sens où ils sont immergés dans un tissu d'information. Nous sommes immergés dans un tissu d'information qui est extrêmement complexe, qui est devenu extrêmement horizontal. Les informations nous viennent de partout, pas que de Louise Touré à la radio, où Louise a des responsabilités. Si elle dit des grosses bêtises, le lendemain, elle va se faire taper sur les doigts, inévitablement, un tout petit peu par son boss, par sa propre éthique. Par sa propre déontologie.
Vous savez que des auditeurs nous écrivent.
On va rentrer le soir à la maison, on va se regarder dans la glace et dire « Oh, mais qu'est-ce que je dis ? Mais comment j'avais pour dire une chose pareille ?» Elle a une déontologie professionnelle. La personne qui écrit un tweet ou fait une vidéo TikTok n'est pas obligée à cette déontologie, donc elle peut mettre un peu ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on se trouve dans un tissu qui est extrêmement complexe d'informations, parce qu'il n'est pas nécessairement filtré par cette déontologie professionnelle. Je mets de l'information en circulation seulement si j'ai pu la vérifier avant. Ça, c'est le défi face auquel se trouvent les jeunes générations, les moins jeunes générations. C'est un défi, je me permets encore une fois, mais pas parce que c'est la journée de l'éducation, mais c'est un défi qu'on peut relever, qu'on doit relever collectivement, pas individuellement. On ne peut pas laisser à chaque fois les individus se débrouiller tout seuls dans leur coin, parce qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'on n'a pas tous les possibilités de se débrouiller tout seuls. C'est un défi à faire relever, effectivement, encore une fois, l'éducation. Éduquer une génération, et qui va nous éduquer aussi de retour, à comprendre comment utiliser ces technologies et pourquoi ces technologies, non pas les transforment, vous faisiez référence au titre du livre, non pas les transforment en les rendant bêtes et en les rendant complètement abrutis face à l'écran, mais comment ils les révèlent à eux-mêmes et ils nous révèlent à nous-mêmes. Si un extraterrestre descend sur Terre et voit les poignées des portes, il pourra vous dire, s'il a un peu de temps hein, avant de détruire la Terre, il pourra vous dire à peu près quelle est la taille des êtres humains, qu'ils ont probablement un appendice pour prendre un truc, quelle est la force des êtres humains. Parce qu'on a construit nos outils par rapport à nos propres capacités. Donc nos outils nous racontent à nous-mêmes. Les technologies, c'est la même chose. Elles nous disent des choses sur ce qu'on aime, sur les pièges dans lesquels on va tomber presque inévitablement parce que on les a construites avec notre propre cerveau et avec toutes les penchants, les préférences de notre propre cerveau. Donc c'est ça aussi un message à faire passer, je pense, à nos plus jeunes et à nos plus vieux. Face à la technologie, ne pensez pas juste à la peur ou à l'espoir de comment elle va vous transformer ou vous allez transformer le monde à travers ces technologies, mais qu'est-ce qu'elle raconte de nous ? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur comment nous sommes fichus dans la tête ?
Sur notre amour de la rapidité et de l'immédiateté,
par exemple. Par exemple, l'amour de ce qui va rapidement, de ce qui peut se lire rapidement, qui demande un moindre effort. Parce que je ne pense pas que, voilà, on puisse dire qu'on est des champions de l'amour pour l'effort de nature. De nouveau, l'amour pour l'effort, ça s'apprend. Et malheureusement, on voit très bien que certaines catégories sociales l'ont appris d'une manière, d'autres d'une autre manière, et que si on ne fait pas un effort à l'école pour le faire apprendre à tout le monde, on creuse encore ces maudites différences sociales. Ça nous dit aussi que nous avons envie du plaisir, de spectacles rapides, d'histoires, de mystères, et de comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, par exemple.
Et de connaissances et d'attention, comme le montre le succès des podcasts de France Culture, y compris celui d'Être et Savoir. Cécile Van de Velde, très rapidement, finalement c'est ça aussi qui a changé, on parlait des années 2000 en début d'émission depuis, c'est cette émergence à la fois cette rapidité de l'information, mais surtout ce lien entre les gens et entre des groupes de gens à travers cette diversité des réseaux. Est-ce que c'est une question, d'ailleurs je la trouve pas très explorée par la sociologie, pardon, qui vous travaille.
Oui, mais alors c'est un travail dans une autre enquête sur la solitude. parce que effectivement, j'ai fait une enquête sur la solitude et notamment chez la solitude des jeunes et de voir comment les technologies peuvent à la fois parfois accentuer cette solitude par la comparaison par rapport aux autres, par exemple sur les réseaux sociaux, qui peut être très cruel, de voir la vie des autres et de la fantasmer aussi, et donc ça fait un retour sur soi qui est parfois très difficile et qui accentue la solitude, mais beaucoup, pour la plupart des jeunes de toute façon, même s'ils ont conscience de ce risque solitude par les réseaux sociaux, on voit que c'est pour beaucoup quand même un pouvoir horizontal. La mise en lien, de se pouvoir mettre en résonance ces expériences. Parce que ce qui est très marquant chez les jeunes aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays que le sentiment de solitude augmente, a tendance à augmenter. Et les réseaux sociaux peuvent être une aide, au contraire, à ce sentiment de solitude en se disant non, je ne suis pas si seule à vivre, par exemple, cette anxiété. Je ne suis pas si seule à vivre cette expérience douloureuse. Et pour beaucoup, dans les témoignages que je reçois, il y a cette mise en commun des expériences qui compte énormément pour justement mieux envisager l'avenir. Donc les réseaux sociaux, bah, comme disait tout à fait Elena Pasquinelli, si on a un discours, si on a conscience de leurs limites, mais on peut embrasser le changement, non pas par la peur et se crisper sur une peur sur ce qu'il ferait sur nos enfants, mais de cultiver l'espoir, non pas l'optimisme. En sociologie des émotions, on distingue optimisme qui serait justement nier les difficultés, nier les problèmes, nier les limites, mais l'espoir, c'est justement embrasser ces limites-là pour pouvoir les transformer en outils porteurs d'avenir. Et donc de cultiver un espoir et une utilisation positive de ces réseaux. Pardon.
Et ce sera le mot de la fin, Cécile Van de Velde. Merci beaucoup et je remercie l'équipe de l'émission Avril Ventura, Camille Mathy, Timothée Hubert à Paris et Pierre Dulon à Radio-Canada à Montréal.